31 janvier 2002 à Saint-Judas.
Question. C'est bien, parce que maintenant il n'y en a pas eu beaucoup. Bon. Vous avez dit que notre découverte de l'être premier nous permet d'avoir, d'aimer les hommes plus profondément. Oui, parce que c'est difficile d'aimer sans voir l'âme. La découverte de Dieu fait que c'est Dieu qui crée notre âme. Nous permet d'aimer les hommes plus profondément. Nous les découvrons comme créatures. Donc, aimés spécialement, personnellement par Dieu. Ayant une âme spirituelle créée par Dieu. Mais cette découverte philosophique peut-elle aller jusqu'à affirmer chez l'homme la capacité d'aimer les autres en Dieu ou à travers l'amour de Dieu? Comme en théologie, on parle de la charité fraternelle qui nous permet d'aimer nos frères in Christo Jesu. C'est sûr que la relation de notre âme avec le Créateur est une relation qui ne fait pas nombre, c'est-à-dire qu'il ne s'ajoute pas à notre charité fraternelle, mais qui est claire. Dieu est la lumière. Je peux même le dire au point de vue philosophique. Dieu est la lumière. Alors, la lumière ne s'ajoute pas. Elle est le moyen par lequel je vois. Je ne vois pas la lumière, mais je vois par la lumière. Mais on peut aimer la lumière. Un coucher de soleil, un lever de soleil, on aime la lumière. Et on aime par la lumière. Oui, c'est évidemment ça, ça nous aide à comprendre comment la lumière, c'est le métaxu, donc l'intermédiaire par excellence, au point de vue sensible. Quand il n'y a plus de lumière, je ne vois plus rien. Je vois grâce à la lumière. La lumière manifeste tout. Alors, je peux faire le parallèle avec l'affirmation de l'existence de Dieu. Dieu crée mon âme. Et quand je regarde le prochain, l'homme, si je vois en lui l'âme créée par Dieu, ça m'aide à l'aimer prodigieusement. Ceux que j'aime spontanément, parce qu'ils sont attirants, parce qu'ils sont beaux, j'oublie la lumière du Créateur. Mais si je fais attention à cette lumière du Créateur, je l'aime encore plus. Et j'allais presque dire, ça me confirme dans l'amitié que j'ai pour eux. J'ai bon goût, puisque il a été aimé gratuitement par Dieu. S'il a été aimé gratuitement par Dieu et que je peux rejoindre cet amour divin sur lui, j'ai bon goût. Alors, ça me donne une sécurité plus grande dans l'amour. Ça, c'est sûr. C'est même ça le regard de sagesse. Et l'amour de sagesse pour aimer le prochain, c'est parce que Dieu l'aime. Alors, autre question. Mon autonomie vient de mon âme, qui est ma substance. Elle m'est donnée par Dieu, parce qu'elle est créée par Dieu, parce que Dieu crée mon être. Personne n'a créé mon âme. Donc j'ai une autonomie en reconnaissant que mon âme est créée directement par Dieu. Quand on dit que l'adoration est le premier acte de mon autonomie, cela signifie-t-il que l'adoration est le premier acte qui manifeste mon autonomie, ou bien qu'il va constituer mon autonomie et la faire grandir. Ce qui constitue mon autonomie, c'est l'acte de Dieu. C'est pas mon adoration. C'est pas moi qui fais mon autonomie. Je manifeste mon autonomie. Je la connais, mon autonomie. Je la découvre. Mais mon autonomie, elle regarde l'être. C'est parce que mon âme est créée par Dieu, est directement créée par Dieu, que j'ai une autonomie radicale. Alors, mes parents sont gardiens de cette autonomie. C'est sûr, ils sont gardiens de cette autonomie. Mais ils la gardent, ils la permettent. Mais ils ne la créent pas, ils ne la réalisent pas. C'est vraiment l'acte créateur de Dieu qui fonde mon autonomie. Puisque je ne dépends de personne d'autre que de Dieu. C'est mon autonomie, ça. Par mon âme, j'ai un lien avec Dieu que je reconnais par l'adoration. L'adoration, c'est reconnaître ce lien de dépendance unique vis-à-vis de Dieu. Et c'est de reconnaître que cette dépendance vis-à-vis de Dieu me libère de tout autre domination. Il n'y a que Dieu qui atteint mon âme directement. Alors, je peux être diminué dans mon autonomie par les créatures, c'est évident, le milieu ambiant, mais radicalement, je garde toujours mon autonomie. Donc, mon autonomie ne vient pas de mon acte d'adoration, mais présuppose mon acte d'adoration. Mon acte d'adoration reconnaît que Dieu a créé mon âme et que c'est Dieu qui me donne cette autonomie, qu'elle vient de Dieu. Donc, l'adoration est le premier acte qui manifeste mon autonomie, ou bien qu'il va constituer mon autonomie. Non, l'adoration ne constitue pas mon autonomie. Mon autonomie vient de l'acte créateur de Dieu, unique. Mais l'adoration manifeste cette autonomie. En adorant Dieu, je me libère de toute autre servitude. Et c'est très important ça. Surtout dans le monde psychologique dans lequel nous sommes. Parce que psychologiquement, on a quelquefois l'impression d'être ligoté de droite et de gauche. Et c'est vrai que psychologiquement, on peut être ligoté comme la mouche est prise par la toile d'araignée. On est quelquefois comme ça. C'est là. Je suis passé, je suis complètement ligoté à droite et à gauche. La vie religieuse, vue de l'extérieur, peut donner cette impression. On est ligoté par les supérieurs. Il y a le père maître, le prieur, le supérieur et le pape. Donc on est terriblement ligoté. On peut dire le chrétien est ligoté par tout ça. Donc il n'est pas libre. Alors, l'adoration me montre que je suis souverainement libre. Elle manifeste cette liberté. Je ne suis dépendant que de Dieu. Et tous ces points psychologiques qui pourraient me faire croire que je suis complètement ligoté, c'est librement que je les accepte. J'accepte librement d'avoir l'autorité du pape. J'accepte librement d'avoir l'autorité de mon supérieur. Et toutes mes autorités, je les ai acceptées librement. Je suis entré librement dans la vie religieuse. Et je reste libre. Puisque tout acte d'obéissance présuppose cette liberté. Alors, on va continuer à essayer de préciser toujours ce que doit représenter cette morale religieuse. Naturelle. On est naturellement religieux. Pas un religieux, mais naturellement religieux. De sorte que la non-considération de l'attitude religieuse, comme de fait en France on tend à faire ça, est la pire des tyrannies. Il faut que pour nous, on en soit convaincu. Ne pas reconnaître notre dépendance religieuse à l'égard de Dieu, à l'égard du Créateur, par notre âme créée par Dieu, c'est la pire des tyrannies. Ce qu'on veut, c'est que l'État veut se mettre à la place de Dieu. Et un État qui défend les manifestations religieuses, c'est la pire des tyrannies. Puisque reconnaître Dieu, c'est reconnaître que notre âme est créée par Dieu et qu'elle est créée par Dieu directement. Et qu'il n'y a qu'à l'égard de Dieu qu'on dépend. Et c'est ça qu'au fond, il ne tolère pas. Il ne tolère pas que l'homme qui reconnaît cette dépendance à l'égard de Dieu est souverainement libre par rapport à tous les hommes. Même au point de vue politique, on est souverainement libre. Parce que c'est Dieu seul qui crée mon âme. C'est très important ça. Vous voyez, l'éthique religieuse, par l'adoration, maintient notre liberté fondamentale. On peut m'arrêter, m'empêcher d'écrire, m'empêcher de respecter. On peut faire tout ça. C'est évident. Mais c'est extérieur. C'est de l'ordre des manifestations. Intérieurement, je suis libre. Dépendre de Dieu et reconnaître cette dépendance de mon âme à l'égard de Dieu, c'est la possibilité de maintenir ma liberté totale à l'égard des hommes. Reconnaître ma dépendance par l'adoration, ma dépendance à l'égard de Dieu, c'est reconnaître ma souveraine liberté à l'égard des hommes. Et c'est ça que les hommes ne peuvent pas accepter. Et c'est pour ça qu'ils n'acceptent pas le point de vue religieux. Bon, ça touche notre personne, ça. Notre personne est inviolable comme personne. Elle dépend de Dieu. Et elle accepte de dépendre de Dieu. Et alors, elle me donne une liberté complète vis-à-vis de tous les autres hommes. Donc, nous avons essayé de comprendre comment cette dépendance à l'égard de Dieu joue au niveau de la liberté par le point de vue de l'adoration, joue au niveau de l'amitié. J'aime plus profondément mon ami quand je sais que son âme est créée par Dieu. Parce que je le respecte plus profondément. Et grâce à ce respect plus profond, je peux l'aimer plus. J'évite de tomber dans ce fait que l'amour, l'amitié, quand il n'est pas suffisamment pur, fait que l'ami n'est plus autre, il devient mien, il me prolonge. Et donc, il y a une confusion, et une confusion très grave qui supprime l'amour, tôt ou tard. Et la fusion avec mon ami supprime l'amitié. Parce que je n'aime pas vraiment ce qu'il y a de meilleur en lui. Ce qu'il y a de meilleur en lui, c'est son âme, qui est libre. Et je veux le posséder. Je veux l'avoir pour moi. Et l'avoir pour moi, c'est le considérer dans le prolongement de mon amour. Alors, je ne le considère plus vraiment comme un homme capable d'être libre. Et l'amour d'amitié est blessé. Nous avons vu ensuite comment cet amour d'amitié, comment dans la morale religieuse, il y avait nécessairement une transformation très nette vis-à-vis de la prudence. La prudence joue d'une façon particulière pour harmoniser tous les moyens que je peux avoir pour atteindre ma finalité. Or, le fait de reconnaître l'existence de Dieu change ma finalité. Je suis fait pour m'approcher de Dieu le plus que je peux, puisque seul Dieu peut satisfaire pleinement le désir de vérité que mon intelligence peut avoir, le désir d'aimer quelqu'un qui est absolument libre et d'une fidélité absolue. Affirmer l'existence de Dieu met en moi un désir de le connaître et de l'aimer le plus que je peux, puisque je sais que Dieu seul peut être le bien qui comble complètement mes désirs et ma recherche de vérité. Oui, autrement dit, affirmer l'existence de Dieu me met un horizon nouveau. L'homme n'est plus mon horizon unique. L'amour de l'homme ne me suffit plus. Je sais que mon âme créée par Dieu ne peut se satisfaire qu'en Dieu, ne peut se reposer qu'en Dieu, dans la contemplation et l'amour de Dieu. Donc, ceci modifie complètement ma prudence, puisque dans ma prudence, il y a quelque chose de tout à fait nouveau, m'approcher de Dieu. Comment puis-je m'approcher de Dieu ? Et comment puis-je le faire de la façon la plus vraie, la plus profonde ? Puisque je peux connaître Dieu et l'aimer. Et je dois chercher à le connaître de plus en plus et à l'aimer de mieux en mieux. Quels sont les moyens que je puis avoir naturellement? C'est quelque chose de très capital, ça. Parce que la finalité est ce qui motive toute ma recherche de la vérité. Quand je sais que je puis aimer Dieu et le connaître, et que je dois tout faire pour l'aimer plus et le connaître mieux. Et au point de vue éthique religieuse, c'est quand même la chose principale et première, découvrir l'existence de Dieu, aimer Dieu créateur de mon âme. Il s'intéresse à moi puisqu'il a créé mon âme. Et donc, puisqu'il s'intéresse à moi et qu'il est tout puissant, puisqu'il a créé mon âme, je dois, moi, répondre, non seulement par l'adoration, mais répondre dans l'organisation de ma vie. Alors, là se pose la question. Y a-t-il une vie mystique, naturelle. C'est une très grave question. Maritain, il revenait toujours là-dessus. Il avait créé un petit groupe de philosophes qui recherchaient cette question-là. Et un de ces philosophes était un de ceux qui connaissaient le mieux la philosophie de l'Inde. Et il revenait toujours là-dessus, c'est que dans la philosophie indienne, il y a une recherche mystique de Dieu. Et non seulement dans la philosophie indienne, mais quand on regarde Plotin, donc dans la philosophie grecque, Plotin avait une vie mystique. Plotin n'a jamais rien écrit, mais ce sont ses disciples qui ont écrit les entretiens. Et Plotin avait des extases. On dit même qu'il a eu une extase qui a duré 2-3 jours. Il est resté sans manger, tout le temps à contempler Dieu. Alors là, c'est un problème qu'il faut se poser. Y a-t-il une mystique, une connaissance naturelle de Dieu, affective, mystique, aimante? Vous voyez, quand saint Thomas nous dit, je vous l'ai rappelé, quand saint Thomas nous dit que l'amour nous permet d'être plus proche de Dieu que la connaissance. Ce principe que donne saint Thomas, ce principe de gouvernement, d'éducation, vaut pour l'éthique religieuse. Sans la grâce, uniquement avec le secours naturel de Dieu, je puis aimer Dieu parce qu'il est mon créateur. La chose meilleure, la meilleure qui est en moi, vient directement de Dieu. Et venant directement de Dieu, c'est moi, l'unique, qui peut en remercier Dieu. Ce n'est pas mes parents, c'est moi. Puisque ce don m'est fait à moi personnellement. Et c'est ça qui constitue ma personne, mon âme. Je peux développer ce qu'il y a de meilleur en moi par cette recherche la plus profonde du mystère de Dieu. Plotin, sans la grâce, hein, non chrétien, va très loin dans ce point de vue-là. Il y a des pages de Plotin qui sont une mystique naturelle. Vivre dans ce souci de toujours plaire à Dieu. Souci d'être toujours en conformité avec la volonté de mon Créateur. Donc, Plotin, dans ses écrits philosophiques, que Bergson aimait beaucoup, et Bergson, il semble bien qu'il a découvert le Christ, qu'il est devenu chrétien, et c'est grâce à Plotin. Et il enseignait Plotin à la Sorbonne en montrant que l'affirmation de Dieu était philosophique. Et cette affirmation d'existence de Dieu changer nécessairement toute notre vie et exiger, si on était logique avec soi-même, puisque Dieu était le premier, était celui qui m'avait le plus donné. Donc, je devais mettre toute ma vie en référence vers Dieu. Je crois que Plotin montre bien qu'il existe une mystique naturelle et qui, dans l'Inde, a été très fort recherchée. Nous, très vite, il y a eu le christianisme. Plotin, en quelque sorte, il a été dépassé par le christianisme. Alors, on a parlé moins de ça. Nous n'avons pas le souci d'avoir une mystique naturelle. Parce que nous savons qu'au point de vue chrétien, nous allons tout de suite beaucoup plus loin. Mais nous pouvons reconnaître que l'intelligence, dans ce qu'elle a de plus parfait, est faite pour Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut satisfaire mon intelligence. Parce que mon intelligence est divine. Puisqu'elle peut découvrir Dieu. Et donc en découvrant Dieu, elle est divine. Et Plotin reconnaît ça, ce côté divin de l'intelligence. Naturellement, elle est divine. Alors, divine, pas surnaturelle, mais divine en ce sens que Dieu seul a créé mon âme. Oui, on est très loin de la Sorbonne, de ce qui s'enseigne aujourd'hui. Alors que je crois qu'on devrait, au point de vue philosophique, montrer que si l'intelligence peut découvrir l'existence de Dieu, l'intelligence et l'amour, la volonté, doit s'intéresser à Dieu plus qu'à toute autre réalité. Non seulement l'adorer, mais chercher à le contempler. Et ceci serait comme l'objet premier de ma prudence. Si je suis un homme prudent, sachant que je puis atteindre Dieu par l'intelligence, je dois faire tout ce que je peux pour vivre le plus possible avec celui qui est mon Créateur, en le connaissant, en l'aimant. Je crois que ça fait partie de l'éthique religieuse. Reconnaître que la contemplation et la vie d'intimité avec Dieu a un fondement naturel dans l'intelligence et la volonté.